Chapitre 23, Côte Rouge 6. Les 8 années qui suivirent furent les plus paisibles de la vie de Iwenji. La terreur née de son expérience de la révolution culturelle s'était peu à peu estompée et elle pouvait enfin reposer son esprit. Le projet Côte Rouge avait achevé ses phases d'expérimentation et de rodage, et les opérations étaient devenues un travail de routine. Les dysfonctionnements s'étaient faits de moins en moins nombreux, et son travail comme sa vie avait trouvé une certaine stabilité. Désormais en paix, la mémoire qui avait jusque-là été comprimée par l'angoisse et la peur commença à se réveiller. Wenji découvrit que ses souffrances venaient en réalité tout juste de commencer. Des souvenirs cauchemardesques refaisaient surface avec de plus en plus de vigueur, comme un feu né d'un lit de cendres brûlant enflammant son âme. Chez une personne ordinaire, le temps aurait peut-être peu à peu pansé ses blessures. Après tout, nombreuses étaient les jeunes femmes à avoir connu de tels drames durant la révolution culturelle, et par comparaison avec beaucoup d'autres, elles s'en étaient finalement bien tirées. Mais Iwenji avait un esprit scientifique. Elle refusait d'oublier. Elle observait la folie et la haine qui l'avaient tant blessée avec le regard de la raison. En réalité, cet examen rationnel du mal de l'humanité avait débuté dès l'époque de sa lecture de « Printemps silencieux ». Grâce à l'intimité de plus en plus grande qu'elle entretenait avec Yang Wenning, elle avait fait acheter par la base, grâce au concours de Yang et sous prétexte de collecter des données techniques indispensables, de nombreux ouvrages étrangers de philosophie et d'histoire. Elle frémissait en découvrant l'histoire sanglante de l'humanité et les remarquables réflexions des philosophes l'aidaient à comprendre l'essence et le mystère de la nature humaine. Même dans un endroit comme le pic du radar, semblable à une source aux fleurs de péché, elle était chaque jour témoin de l'irrationalité et de la folie humaine. Au pied du pic, elle voyait toujours ses anciens compagnons raser furieusement la forêt. Les surfaces nues s'élargissaient de jour en jour. C'était comme s'ils écorchaient la peau des montagnes du Grand Khingan. Lorsque ces espaces vierges devenaient de vraies plaines, les quelques arbres ayant survécu au carnage avaient l'air d'étranges intrus. Ils faisaient partir des feux pour finir de déboiser ces montagnes déjà presque chauves, et le pic du radar était devenu le dernier repère d'oiseaux fuyant une mer de flammes. Tandis que les incendies faisaient rage, les oiseaux de la base aux plumes noircies chantaient d'incessantes complaintes de désespoir. Plus loin d'ici, la folie humaine atteignait son summum dans toute l'histoire de la civilisation. La guerre froide était à son comble. Dans les innombrables silos à missiles disséminés sur les deux continents ou sur les sous-marins nucléaires qui se terraient comme des fantômes dans les profondeurs de l'eau, des armes capables de détruire 10 fois la Terre pouvaient être activées à tout moment. Un seul sous-marin nucléaire de classe Typhoon ou Ethan Allen était en mesure d'anéantir des centaines de villes et de tuer des millions de personnes. Mais la plupart des gens continuaient à vivre le sourire aux lèvres comme si tout cela ne les atteignait pas. En tant qu'astrophysicienne, Iwenji était particulièrement sensible au potentiel de destruction des armes nucléaires. Elle savait que c'était un pouvoir que seules les étoiles devaient posséder. Elle était consciente qu'il existait des forces encore plus terrifiantes dans l'univers, les trous noirs, la matière noire. En comparaison avec ces forces, une bombe atomique n'était qu'une petite chandelle. Si les humains parvenaient un jour à contrôler ces forces, le monde pourrait se retrouver pulvérisé à tout instant. La raison était impuissante face à la folie. 4 ans après son arrivée dans la base, Iwenji et Yang Wenning se marièrent. Yang Wenning l'aimait d'un amour sincère. Pour elle, il avait compromis son avenir. La période la plus brûlante de la révolution culturelle était derrière eux et le climat politique s'était un peu assoupli. Yang Wenning ne fut pas particulièrement persécuté après son mariage, mais épouser une femme cataloguée comme contre-révolutionnaire était considéré comme un manque de maturité politique, et on lui retira son poste d'ingénieur en chef. Si son épouse et lui purent rester à la base avec le statut de techniciens ordinaires, c'était parce qu'on aurait difficilement pu se passer de leurs compétences. Quant à Iwenji, Son mariage avec Yang Wenning était davantage une manière de lui exprimer sa gratitude. Au plein cœur de la tempête, il l'avait secourue et abritée dans ce port, lui permettant de couper avec le monde, sans quoi elle ne serait sans doute plus en vie. Yang Wenning était un homme talentueux, cultivé et avec du savoir-vivre. Elle avait pour lui de l'affection, mais son cœur n'était plus qu'un tas de cendres froides sur lequel le feu de l'amour ne pouvait être ravivé. Ses réflexions sur la nature et la condition de l'homme plongèrent Iwenji dans une profonde crise spirituelle. Ce qu'elle dut d'abord affronter, c'était l'absence d'un but dans lequel s'investir corps et âme. Elle avait été idéaliste autrefois, elle avait voulu mettre son talent au service d'une grande cause. Mais elle avait compris que tout ce qu'elle avait réalisé jusque-là n'avait eu aucun sens, et que l'avenir, lui non plus, ne lui offrait pas d'objectif à poursuivre. Cet état psychologique perdura, et peu à peu, elle éprouva à l'égard du monde un sentiment d'étrangeté. Elle n'avait pas l'impression de lui appartenir. Cette sensation d'errance spirituelle la tourmentait cruellement, et après son mariage avec Yang Wenning, son âme devint en réalité plus solitaire que jamais. Iwenji était de service de nuit ce soir-là. C'était un de ces moments durant lesquels elle se sentait le plus seule. Dans le silence de minuit, l'univers apparaissait à ceux qui tendaient l'oreille vers lui comme une vaste plaine désertique. Wenji détestait voir ses courbes oscillant légèrement sur l'écran de surveillance. C'étaient les ondes radio de l'univers que recevait Côte Rouge, un bruit de fond sans aucune signification. Wenji voyait dans ces lignes sans fin comme une représentation abstraite de l'univers, une extrémité reliée à un passé infini et l'autre à un futur infini. Et au milieu, une courbe aléatoire sans règles et sans vie traversée de pics et de vallées, comme un désert unidimensionnel tapissé de grains de sable de différentes tailles. Des rangées de grains de sable solitaires, désolées, si longues qu'elles en étaient insupportables. On pouvait longer ce désert d'un bout à l'autre sans jamais en trouver la fin. Cette nuit-là, cependant, en laissant traîner son regard sur l'écran, Wenji aperçut quelque chose d'anormal. Même des experts auraient eu du mal à dire, à l'œil nu, si la forme d'onde qui venait d'apparaître était porteuse d'une information quelconque. Mais Wenji connaissait trop bien le bruit de fond de l'univers. La forme d'onde qui s'était dessinée devant ses yeux avait quelque chose de plus, quelque chose d'inexprimable. Cette courbe montante et descendante paraissait avoir une âme. Elle était certaine que cette onde radio avait été créée par une forme d'intelligence. Wenji se précipita devant un autre terminal et vérifia le niveau de confiance du contenu du signal estimé par l'ordinateur. Aucune des ondes radio reçues jusqu'à ce jour n'avait dépassé un niveau de confiance de C. Si un signal atteignait A, cela signifiait que la probabilité que la transmission contienne une information intelligente était supérieure à 90%. 5A d'affilée était une situation rarissime. Ils indiquaient que l'information reçue utilisait le même code de langage que celui des transmissions de Côte Rouge. Wenji démarra le système de déchiffrage de Côte Rouge. Le logiciel pouvait tenter de décrypter n'importe quelle information dont le niveau de confiance était supérieur à B. Depuis le lancement du projet Côte Rouge, celui-ci n'avait jamais réellement fonctionné. Sur la base des essais effectués par le logiciel, le déchiffrage d'un message intelligent pouvait prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, sans compter que la majorité du temps, le logiciel échouait à décrypter l'information. Mais cette fois-ci, à peine le signal avait-il été transmis qu'un message indiquant le succès du déchiffrage s'afficha sur l'écran. Wenji ouvrit le fichier, et pour la première fois, un être humain lut un message provenant d'un autre monde dans l'univers. Son contenu dépassait tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'était un avertissement, répété trois fois. « Ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne répondez pas !» Saisi d'une excitation étourdissante, ONG déchiffra un second message. « Ce monde a bien reçu votre message. Ici, je suis un pacifiste. Vous avez eu de la chance que je sois le premier à intercepter votre message. Je vous avertis, ne répondez pas, ne répondez pas, ne répondez pas. Il existe des dizaines de millions d'étoiles dans votre direction. Tant que vous ne répondrez pas, notre monde n'aura aucun moyen de localiser la source de votre transmission. Mais si vous répondez, vous dévoilerez votre position. Votre système sera envahi et votre monde occupé. Ne répondez pas, ne répondez pas, ne répondez pas. » À mesure qu'elle lisait les lignes vertes du texte affiché sur l'écran, Wanji se trouvait dans l'incapacité de réfléchir calmement. Son esprit, paralysé par l'ivresse et le choc, ne voyait plus qu'une seule chose. Moins de 9 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait envoyé le message vers le soleil. Cela signifiait donc que la source de transmission se situait à environ 4 années-lumière. Elle ne pouvait provenir que d'un seul système, le plus proche de la Terre, Alpha du Centaure. L'univers n'était pas désert. L'univers n'était pas vide. L'univers était plein de vie. L'homme dirigeait son regard aux confins de l'univers sans jamais avoir soupçonné que des formes de vie intelligentes peuplaient le système stellaire le plus proche du sien. Wanji observa les formes d'ondes sur l'écran. Le signal continuait à pénétrer par l'antenne de Côte Rouge. Elle ouvrit une autre interface et mit en route le déchiffrage instantané. Le contenu des messages s'afficha aussitôt. Durant les 4 heures qui suivirent, Wanji apprit l'existence de Trisolaris, de cette civilisation sans cesse en train de renaître et de sa tentative de migration vers les étoiles. À 4 heures du matin, la transmission depuis Alpha du Centaure se termina. Le système de déchiffrage se mit à tourner dans le vide et à afficher des messages d'échec. Le système de surveillance de Côte Rouge entendait à nouveau le bruit de fond d'un univers désolé. Mais Ewenji était certaine de ne pas avoir rêvé. Si le soleil était réellement une antenne géante, pourquoi donc n'avait-elle jamais reçu les échos de l'expérience menée 8 ans plus tôt? Pourquoi les formes d'ondes des sursauts radio de Jupiter et des rayonnements solaires n'avaient-elles pas correspondu? Wenji réussirait plus tard à trouver des explications. Peut-être que la station radio de la base ne pouvait tout simplement pas recevoir des ondes radio à cette fréquence, ou peut-être que le bureau des communications avait bien reçu un écho, mais sous la forme de bruit de fond, et avait considéré n'avoir rien reçu. Quant aux formes d'ondes, il était très probable que, lors de l'amplification des ondes radio par le soleil, celui-ci ait aussi ajouté une nouvelle forme. Il n'avait pas été très compliqué pour le système de décryptage de la civilisation extraterrestre de la filtrer, tandis que les formes d'ondes de Jupiter et du Soleil étaient apparues très différentes à ses yeux. Elle obtiendrait plus tard confirmation de ce point. Le Soleil avait ajouté une onde sinusoïdale. Prudente, elle regarda tout autour d'elle dans la console de contrôle. 3 autres employés étaient de service de nuit. 2 d'entre eux discutaient dans un coin et un dernier somnolait devant un terminal. Dans la section d'analyse de données de l'unité de surveillance, seuls les 2 terminaux devant lesquels elle se trouvait permettaient de vérifier le niveau de confiance d'un signal et d'accéder au logiciel de décryptage. Elle agit rapidement, sans bruit et sans bouger. Elle enregistra tout d'abord l'ensemble des signaux reçus dans un répertoire caché et plusieurs fois encrypté, puis remplaça leur contenu par un enregistrement de bruit de fond datant d'un an plus tôt. Enfin, elle entra un court signal dans la mémoire du système de transmission de Côte Rouge. Ewenji se leva et sortit par la porte principale de la console de contrôle de l'unité de surveillance. Une brise glaciale souffla sur son visage bouillant. Éclairée par les faibles lueurs de l'aube qui se levait à l'est, elle marcha sur le sentier pavé dans la direction de la console de contrôle de l'unité de transmission. Au-dessus de sa tête, l'immense main de l'antenne s'ouvrait silencieusement vers l'univers. La lumière du matin illumina les silhouettes découpées des soldats en faction devant la porte. Comme à l'accoutumée, Wanji ne fit pas attention à eux et entra directement. La console de contrôle de l'unité de transmission était beaucoup plus sombre que celle de l'unité de surveillance. Wenji longea des rangées de placards et se dirigea droit vers la plateforme de contrôle. Avec aisance, elle alluma une dizaine d'interrupteurs et démarra la mise en chauffe du système. Les deux opérateurs assis à côté de la plateforme l'observèrent avec un regard fatigué. L'un d'eux tourna la tête pour regarder l'horloge sur le mur, puis se remit à somnoler. L'autre feuilletait un journal qu'il devait avoir lu plusieurs fois. Au sein de la base, Iwenji n'avait naturellement aucune position politique, mais elle bénéficiait d'une certaine liberté sur le plan technique et était souvent chargée de vérifier le matériel avant l'opération de transmission. Bien qu'il soit peut-être un peu tôt, les premières transmissions ne commençaient que 3 heures plus tard. Il n'était pas si étrange de voir Iwenji mettre le système en chauffe. Une demi-heure interminable s'écoula. Durant ce temps, Wenji paramétra la fréquence de transmission afin qu'elle soit le plus optimale pour être amplifiée par les miroirs d'énergie solaire, puis elle régla la puissance de transmission à son maximum. Elle approcha son œil de l'oculaire du système de visée optique et regarda l'astre du jour se lever à l'horizon. Elle démarra le système de visée de l'antenne et l'aligna lentement pour la faire se retrouver face au soleil. Alors que la gigantesque antenne était en train de pivoter, un bourdonnement se fit entendre dans la console de contrôle. Un des opérateurs jeta un œil sur Wenji, mais sans rien dire. Le soleil avait maintenant complètement dépassé les montagnes. L'extrémité haute de l'astre était au centre du réticule de visée de l'antenne, de manière que soit pris en compte le temps que les ondes radio mettent à rejoindre le soleil. Le système de transmission était prêt. Le bouton de transmission était un long rectangle de la forme d'une barre d'espace sur un clavier d'ordinateur, mais de couleur rouge. Les doigts de Iwenji étaient suspendus 2 centimètres au-dessus. Le destin de l'humanité tout entière tenait à présent à ses doigts fins. Sans la moindre hésitation, Iwenji pressa le bouton. « Que fais-tu ? » demanda l'homme en service, encore endormi. Iwenji lui sourit, mais sans lui répondre. Elle pressa le bouton jaune pour cesser la transmission et manipula le levier de commande pour changer la direction dans laquelle pointait l'antenne avant de quitter la console de contrôle pour aller marcher à l'extérieur. L'opérateur jeta un œil sur sa montre. Il avait terminé son travail. Il prit le journal de transmission et pensa consigner l'opération de démarrage du système de transmission que venait d'effectuer Iwenji. Après tout, ce n'était pas la procédure habituelle. Mais il examina la bande de papier où étaient enregistrées les données et vit que la transmission avait duré à peine 3 secondes. Il reposa le journal à sa place, bâilla, enfila sa casquette et sortit. Le message qui était en chemin vers le soleil était celui-ci. « Venez, je vous aiderai à conquérir ce monde. Notre civilisation est incapable de résoudre ses propres problèmes. Nous avons besoin de votre intervention. » Le soleil qui venait de se lever éblouit les yeux de Iwenji. Elle ne marcha pas longtemps et s'évanouit soudain sur l'herbe. Quand elle se réveilla, elle découvrit qu'elle était dans l'infirmerie de la base. Yang Wenning était assis à ses côtés et la regardait avec sollicitude. C'était le même regard qu'il avait porté sur elle dans l'hélicoptère bien des années plus tôt. Le docteur dit à Iwenji de faire attention et de bien se reposer. Elle était enceinte.